ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Morning Tour.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Radio Campus Tour. Il est 7h15, nous sommes le vendredi 9 janvier et c'est le début de la matinale hebdomadaire des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Au programme aujourd'hui, le vote à Bruxelles du traité entre l'Union européenne et le Mercosur. Il devrait être adopté aujourd'hui, au lendemain de la mobilisation des agriculteurs à Paris et dans toute la France. Nous ferons également le point dans cette émission sur la situation au Venezuela, une semaine après l'enlèvement du président Nicolas Maduro, désormais incarcéré aux États-Unis. Enfin, la neige aura sa place dans cette émission, revue de presse et reportage en fin de matinale. Et tout de suite, le Flash Info présenté par Mathias Dupin.
Après la neige, c'est la tempête Goretti qui a frappé l'Hexagone cette nuit. Les dégâts sont limités, mais on compte au moins 380 000 foyers sans électricité, dont 7 000 en Pays de la Loire. 21 départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent, aucun dégât humain malgré les rafales de vent. En Ukraine, plusieurs immeubles résidentiels ont été frappés par des drones, au moins 4 morts et 10 blessés, alors que la Russie a mené des bombardements d'ampleur dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'Ukraine. L'ensemble du territoire est en alerte face aux missiles. Le maire évoque également plusieurs coupures de courant. La France ne votera pas l'accord de commerce entre l'Union européenne et le Mercosur. Avec une classe politique hostile et une forte mobilisation des agriculteurs, Emmanuel Macron s'oppose jeudi à la signature de l'accord, évoquant un traité d'un autre âge. La Pologne, la Hongrie, l'Irlande et l'Autriche devraient également s'opposer au traité sans parvenir à le bloquer pour autant. L'Italie, qui avait demandé un délai en décembre 2025, semble cette fois prête à donner son aval, un avis décisif pour la signature de l'accord de commerce. La FNSEA, premier syndicat avec ses alliés des jeunes agriculteurs, a appelé à un grand rassemblement devant le Parlement européen à Strasbourg le 20 janvier si l'accord de libre-échange était signé. Une minute de silence aux victimes de l'incendie de Crans-Montana aura lieu à 14h dans le canton du Valais. Emmanuel Macron assistera à cérémonie. Au total, le bilan fait état de 40 morts. 25 Français ont été blessés et 9 sont morts. Deux blessés dans une fusillade à Portland impliquant des agents fédéraux. Alors que l'État des victimes, un homme et une femme, restent inconnus. Cette nouvelle fusillade impliquant les agents fédéraux survient au lendemain de la mort d'une femme de 37 ans, tuée par un agent de la police de l'immigration à Minneapolis. Une manifestation d'ampleur a eu lieu hier en fin d'après-midi. Enfin, le Paris Saint-Germain remporte le trophée des champions à l'issue d'un match au scénario renversant mené 1-2 par l'Olympique de Marseille. En quelques secondes de la fin, le club de la capitale est parvenu à égaliser puis à s'imposer au tir au but jeudi au Koweït pour ajouter un nouveau titre à son impressionnante collection.
C'était le flash de Mathias Dupin. Merci Mathias, on vous retrouve dans une quinzaine de minutes. Une bonne nouvelle pour sa famille, le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis plus d'un an, a été libéré hier. Et justement, depuis hier, Mathis Modet, il est de retour en France.
Ça a été très rapide, violent et presque surprenant. Voilà les mots de la mère de Laurent Vinatier après sa libération hier. Le chercheur français a été libéré par la Russie après un an et demi derrière les barreaux. Il a été accueilli par ses proches et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot dans la base militaire de Villacoublay, près de Paris, dans l'après-midi. Laurent va bien, a indiqué son avocat à l'AFP. Arrêté à Moscou en juin 2024 alors qu'il travaillait pour une ONG suisse de médiation, le chercheur de 49 ans avait été condamné à 3 ans de prison pour ne pas s'être inscrit comme agent de l'étranger sur fond d'accusation d'espionnage par le Kremlin. Mais pour conclure cet accord de libération, le FSB, service fédéral de la Fédération de Russie, a indiqué qu'un joueur de basket russe a été libéré en échange de cette décision, ce que le chef de l'État n'a pas confirmé. Il s'agirait de Danil Kazatkin, détenu en France depuis juin dernier à la demande de la justice américaine, qui le soupçonne d'appartenir à un groupe de hackers. « Je partage le soulagement de sa famille et de ses proches », a réagi le président Emmanuel Macron sur le réseau social X.
Merci Mathis Modet, vous êtes à l'écoute de Good Morning Tour, il est 7h20. Depuis mercredi, la Syrie est de nouveau en proie à des affrontements entre les forces kurdes et le gouvernement. Clara Danry, bonjour.
Bonjour.
Ces attaques auraient déjà causé la mort de 17 personnes.
Oui Jules, la peur règne à Alep, grande métropole du nord de la Syrie.
De nombreux affrontements ont éclaté depuis plusieurs jours entre l'armée syrienne et les forces démocratiques syriennes, ou FDS, dont les membres sont en majorité kurdes. Suite à ces violences, les quartiers kurdes du nord de la ville sont soumis à d'intenses bombardements. Ces quartiers ont été déclarés zones militaires à partir d'hier après-midi. Selon la défense civile syrienne, les combats ont déjà fait 17 morts, dont 16 civils. Les tentatives pour parvenir à un cessez-le-feu ont jusqu'à présent échoué. Suite à ces affrontements meurtriers, les autorités syriennes ont annoncé mardi 6 janvier la suspension des vols à l'aéroport d'Alep pour 24 heures. Cela s'accompagne d'une fermeture des écoles, des universités et des services gouvernementaux.
Mais ces tensions entre le gouvernement et les Kurdes ne sont pas nouvelles.
Ces violences viennent interrompre un processus déjà compliqué. Le 1er avril dernier, un accord avait été signé entre les autorités de Damas et les FDS. L'objectif, intégrer le FDS au gouvernement syrien. Depuis, des affrontements ont eu lieu à 3 reprises entre les deux camps. Les deux forces armées s'accusent mutuellement d'avoir lancé cette nouvelle vague de violence. D'un côté, le pouvoir reproche aux FDS de ne pas avoir respecté leur engagement de retirer combattants et armes lourdes de ces quartiers. Les autorités accusent également les FDS d'utiliser ces quartiers comme base de lancement pour leurs drones et autres aéronefs suicides qui ont ciblé habitants, armées et forces de sécurité ces dernières semaines. Du côté kurde, les factions pro-Damas sont accusées de cibler délibérément des civils et de commettre un crime de guerre dans ces quartiers, selon le média kurde Rudaw.
Et Clara, quelles sont les conséquences à l'échelle régionale et internationale ?
La principale crainte de la communauté internationale est une escalade du conflit qui dépasserait le cadre national. Les FDS ont averti sur X que, je cite, « la poursuite de cette agression pourrait replonger l'ensemble de la Syrie dans une guerre ouverte ». Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar a condamné les attaques du pouvoir islamiste syrien contre les Kurdes à Alep, les qualifiant de « graves et dangereuses ». De son côté, la Turquie s'est dite prête à soutenir l'armée syrienne dans son opération antiterroriste contre les combattants kurdes. En effet, ce pays soutient le gouvernement de Damas et son aversion pour les Kurdes ne date pas d'hier, puisqu'il a mené plusieurs opérations d'envergure contre cette minorité syrienne entre 2016 et 2019. Ces réactions risquent d'entraîner une déstabilisation dans cette région, ce qui en inquiète plus d'un. Le DEM, parti pro-kurde turc, a dénoncé le rôle de la Turquie dans, je cite, « une opération de destruction qui a pour but le massacre des populations turques ». Il a appelé la France et les États-Unis, qui chapeautent les discussions entre Damas et les FDS, à agir pour mettre un terme au combat.
Merci Clara Danry. Tout de suite, on fait une pause musicale avec le groupe britannique The Smiths, There is a light that never goes out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Crashes into us. C'était le groupe britannique The Smiths. On poursuit notre émission, il est 7h26 sur Radio Campus Tours. Hier, plus de 2000 agriculteurs se sont mobilisés à Paris contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Tout à l'heure, les 27 devraient voter pour cet accord commercial à Bruxelles, mais la France votera contre, a annoncé Emmanuel Macron. Une position conforme aux attentes du monde agricole, mais largement isolée en Europe, Gabriel Ziard.
La France parviendra-t-elle à tirer définitivement un trait sur le Mercosur ? Voilà un peu plus de 20 ans que l'Union européenne tente d'appliquer cette union douanière avec les pays d'Amérique du Sud. Mais depuis la formulation d'un véritable accord en 2019, le traité n'a cessé d'être pointé du doigt. Au premier loge, la France, qui a annoncé hier sa ferme intention de voter contre le traité. Interrogée par nos confrères de BFM TV, la ministre de l'Agriculture, Agnès Genevard, a réagi en rappelant qu'il ne fallait pas, je cite, « laisser l'agriculture française être sacrifiée sur l'autel d'un libre-échange ancien, mal pensé et mal calibré ».
Une position qui ne suffira sans doute pas à bloquer le texte au niveau européen.
Oui, car pour rejeter le texte, les pays opposés doivent constituer une minorité de blocage au sein du Conseil de l'UE. Concrètement, cette coalition doit représenter au moins 35% de la population de l'Union européenne. Mais depuis plusieurs semaines, cette coalition ne s'est clairement pas concrétisée, malgré le soutien de différents pays, comme la Pologne, la Hongrie, l'Autriche ou encore l'Irlande. Alors, sauf revirement de dernière minute, les États membres devraient donner leur feu vert lors du vote qui se tiendra aujourd'hui à Bruxelles.
Direction le Venezuela maintenant, après des mois de tensions diplomatiques entre le pays d'Amérique du Sud et les États-Unis. Le dictateur vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé par les forces armées américaines et exfiltré samedi dernier. Dans la ligne de mire de Donald Trump, le pétrole du pays sud-américain, Rachel Giraudeau.
Eh oui Jules, voici une coïncidence des plus étonnantes. Les pays dans lesquels les États-Unis entendent défendre la démocratie, coûte que coûte, sont également ceux qui disposent d'importantes réserves en ressources naturelles. Et le Venezuela, avec son sol aux 303 milliards de barils de pétrole, n'échappe pas à cette règle. Mais la grande nouveauté avec Trump, c'est que ses objectifs discutables ne sont plus déguisés, masqués ou cachés. Le président états-unien n'hésite pas à le dire, il veut piller l'or noir vénézuélien pour rembourser les intérêts américains. En effet, depuis son retour au pouvoir, le locataire de la Maison Blanche accuse Nicolas Maduro d'être à la tête du cartel de Los Soles qui aurait envoyé des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. Et si de nombreux politologues réfutent jusqu'à l'existence même de ce fameux cartel, Donald Trump entend quand même obtenir un dédommagement pour son pays.
Et Rachel, quelles ont été les réactions des dirigeants internationaux suite à cette capture de Nicolas Maduro ?
Le président colombien, Gustavo Petro, a dénoncé une violation de la souveraineté du Venezuela, mais aussi plus largement de toute l'Amérique latine. Puisque cette ingérence n'est pas sans rappeler celle que les États-Unis ont exercée tout au long de la guerre froide sur le sous-continent. Du complot pour tuer le leader communiste Fidel Castro au coup d'État soutenu par la CIA au Guatemala, tous les moyens étaient bons pour lutter contre la menace communiste. Et dès janvier 2025, Donald Trump n'avait pas caché sa volonté de refaire de l'Amérique latine l'arrière-cour du géant américain. Alors face à un Venezuela avec un dictateur socialiste, un Venezuela avec des alliés qui dérangent comme la Chine ou la Russie, il n'a pas hésité à imposer sa loi en bafouant le droit international. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a elle affirmé que le continent américain n'appartenait pas à une puissance mais au peuple de chacun des pays qui le composent. Le premier ministre espagnol a également condamné l'ingérence états-unienne pendant que ses homologues français et anglais ont préféré saluer la chute du dictateur Nicolas Maduro.
Et la réaction la plus importante, c'est sans doute celle du peuple vénézuélien.
Tout à fait, et elle semble mitigée. Il faut évidemment souligner que Nicolas Maduro était un dictateur, que le Venezuela est plongé dans une crise économique sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 2013, que 90% des 28 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, que près de 8 millions de personnes ont été contraintes à fuir le pays. Alors forcément, la chute de Nicolas Maduro est un soulagement pour les Vénézuéliens. Un semblant d'espoir après des années de répression. Victoria, réfugiée à Madrid depuis 4 ans, raconte. Nous savons que les États-Unis viennent pour le pétrole, mais en réalité, les Vénézuéliens n'en ont pas vu les bénéfices depuis des années, car seuls Maduro et ses acolytes en profitaient. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qu'ils volent, mais au moins ce n'est pas le régime qui nous tourmente depuis plus de 20 ans. Une victoire est une victoire, dit-elle.
Et après cette opération éclair menée au Venezuela, le président américain a réaffirmé sa volonté d'annexer le Groenland. Son entourage a affirmé qu'il n'excluait pas la possibilité d'une intervention militaire. Retour en France où l'hiver, les maraudes sont plus nombreuses et encore plus nécessaires pour les sans-abri. Hier soir, le SAMU social en organisait une à Tours. À bord de leur camion, les bénévoles ont sillonné les rues pour distribuer du café. des soupes et des chocolats, mais surtout pour discuter. C'est ce que nous dit Féo, il vit à la rue depuis 3 ans.
Bah, principalement une soupe, et honnêtement, un peu le petit plaisir. Je n'ai pas vu l'équipe de la Croix-Rouge depuis que la nouvelle année s'est entamée. Ces 3 derniers jours ont été quand même pas mal enneigés et plus gelés. En soi, il y a du vent et un peu de pluie, mais il fait nettement plus chaud. C'est qu'en soi, on est mouillé, mais si on se met à l'abri de la pluie. Mais ouais, honnêtement, il fait moins froid aujourd'hui qu'il a fait ces derniers jours. Il y a un vent de merde, mais honnêtement, c'est l'hiver, c'est des conditions. Hein. Elles sont comme ça, elles sont comme elles sont. C'est un peu chiant. Là où, genre, je veux dire, dehors, c'est un peu ton salon, c'est là que t'habites. Tu t'assois par terre, forcément, il y a de la neige. Mais faut pas déconner, il y a une gaieté d'enfant qu'on cherche à garder. Pas mal d'entre nous, ça fait quand même plaisir de voir la neige. Tu te réveilles, c'est ah ouais, t'as froid, tu trembles, mais tu te réveilles, tu vois de la neige, c'est quand même pas mal.
Des propos recueillis par Clara Baudard. Il est 7h32, vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'EPJT sur 99.5 FM. On se retrouve juste après Break My Stride de Matthew Wilder. Il est 7h35 sur Radio Campus Tour. Merci de passer ce début de journée avec nous. Tout de suite, on retrouve Mathias Dupas pour les informations.
La tempête Goretti a frappé l'Hexagone cette nuit. Les dégâts sont limités, mais on compte au moins 380 000 foyers sans électricité, dont 7 000 en Pays de la Loire. 21 départements sont toujours placés en vigilance orange pour vent violent. À Barfleur, dans la Manche, les vents ont atteint 213 km/h avec un pic d'intensité entre minuit et 1h du matin. En Ukraine, plusieurs immeubles résidentiels ont été frappés par des drones. Au moins 4 morts et 10 blessés, alors que la Russie a mené des bombardements d'ampleur dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'Ukraine, l'ensemble du territoire est en alerte face aux missiles. la France ne votera pas l'accord de commerce entre l'Union européenne et le Mercosur. Avec une classe politique hostile et une forte mobilisation des agriculteurs, Emmanuel Macron s'oppose jeudi à la signature de l'accord évoquant un traité d'un autre âge. La Pologne, la Hongrie, l'Irlande et l'Autriche devraient également s'opposer au traité sans parvenir à le bloquer pour autant. L'Italie, qui avait demandé un délai en décembre 2025, semble cette fois prête à donner son aval, un avis décisif pour la signature de l'accord de commerce. La Suisse entame une journée de deuil national en hommage aux 40 morts et 116 blessés dans l'incendie de Constellation à Crans-Montana lors de la soirée du Nouvel An. Plus d'un millier de personnes, dont les familles et amis des victimes, sont attendues à partir de 13h45 au centre de conférence de Martigny, commune voisine de Crans-Montana. Emmanuel Macron représentera la France lors de cette cérémonie. Une manifestation d'ampleur a de nouveau eu lieu à Téhéran hier soir contre le régime en place, avec une coupure massive du réseau internet. Au moins 45 manifestants ont été tués depuis le début de la contestation fin décembre, rapporte une ONG. La NASA écourte une mission à bord de l'ISS pour raisons médicales. C'est la première fois que l'agence spatiale américaine procède à une évacuation médicale de la station orbitale, disant préférer agir avec prudence pour le bien du membre d'équipage, sans préciser l'identité de l'astronaute ni la cause précise de son retour.
C'était les informations présentées par Mathias Dupin, merci. Un nouveau drame à Minneapolis, la ville où George Floyd mourait sous les coups d'un policier il y a 6 ans. Ce mercredi, c'est une femme de 37 ans qui a été tuée. Un agent de la ICE, la police fédérale de l'immigration, lui a tiré dessus, Antoine Camara.
Pour rappeler le contexte, la police fédérale de l'immigration, la ICE, menait depuis mardi une série d'opérations ciblées à Minneapolis. Au total, ce sont environ 2000 policiers qui étaient mobilisés dans la ville et sa banlieue. Les faits, eux, se sont déroulés sur la Portland Avenue au cours d'une intervention de la ICE vers 9h30 contre laquelle des passants se sont interposés mercredi matin. Dans plusieurs vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux, les scènes montrent trois agents de la ICE s'approcher d'une voiture Bordeaux garée en travers de la route en ordonnant à la conductrice de sortir du véhicule. On aperçoit ensuite le SUV avancer avant qu'un des policiers placé en face ouvre le feu à deux reprises en direction de la jeune femme au volant. La conductrice, morte à la suite des blessures par balles portées à sa tête, a été identifiée par les autorités comme étant Renée Nicole Good, une mère de famille américaine de 37 ans. Sur d'autres vidéos de l'événement postées sur les réseaux sociaux, on entend des agents de la ICE refuser à un médecin de porter assistance à la victime.
Et depuis la fusillade, justement, plusieurs versions se sont confrontées sur le déroulé du drame.
En effet, sur sa plateforme Truth Social, le président états-unien Donald Trump a affirmé que le policier avait agi en état de légitime défense face à la conductrice qui, selon lui, était très agitée et faisait obstruction aux agents de la ICE. Une version des faits reprise par la secrétaire à la sécurité intérieure américaine Kristi Noem, qui a qualifié l'action de la mère de famille décédée d'acte de terrorisme intérieur, malgré les vidéos qui n'étayaient en aucune façon ses propos. Un autre communiqué publié par ce même département de la sécurité intérieure confirme la version de Kristi Noem en assurant que la victime Renée Nicole Good avait utilisé son véhicule comme une arme tentant de renverser les agents de force de l'ordre dans le but de les tuer. Fin de citation.
Des propos qui ont suscité la colère et la contestation des responsables politiques locaux, Antoine.
Oui, lors d'une conférence de presse le jour du drame, le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, a vivement dénoncé les actions des agents de la ICE en déclarant, je cite, « Cassez-vous de Minneapolis, nous ne voulons pas de vous ici. Vous affirmez être dans cette ville pour instaurer une certaine forme de sécurité et vous faites exactement le contraire. » Des propos suivis dans la foulée par ceux du gouverneur de l'État du Minnesota, Tim Walz, qui a exhorté les habitants à manifester pacifiquement. Ce dernier a aussi promis qu'une enquête complète, équitable et rapide sera menée pour garantir la responsabilité de la justice. Et puis dans la soirée de mercredi, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame et dans plusieurs grandes villes des États-Unis pour rendre hommage à la victime Renée Nicole Good et protester contre la politique de répression anti-immigration menée par le président états-unien Donald Trump depuis son investiture.
Le policier qui a tiré sur la conductrice, non armée, pourrait être traduit devant un tribunal si l'enquête démontre qu'il n'y avait pas de légitime défense. Il est 7h40, l'heure, pourquoi pas, de marcher la tête à l'envers. Mathias veut justement tester ça dans le studio. Alors on écoute tout de suite Upside Down de Diana Ross.
Turn me inside out and round and round. you give to me, the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. I know you got charm and appeal, you always play. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating, but no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round, round. Upside down, boy, you turn me inside out and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, round.
Upside down, you turn me. You're giving love instinctively. Round and round, you turn me. I say to thee,
c'était Diana Ross avec son titre Upside Down. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Youn Rollin vient de rentrer en studio. Youn qui est en train de s'installer. On attend quelques secondes. En tout cas, il va nous parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les quarts de finale, c'est ce soir. Et Youn, vous êtes bien installé, bonjour.
Oui Jules, la CAN est toujours une compétition attendue par les fans de football. Durant cette édition, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, c'est un supporter de la République démocratique du Congo qui a le plus marqué les esprits. Le 23 décembre dernier, à l'occasion du match entre l'équipe des Léopards et le Bénin, un supporter congolais a été aperçu dans les tribunes, se tenant debout sur un petit estrade, vêtu d'un costard impeccablement soigné et coloré, immobile, la main levée. Il renouvelle d'ailleurs ce geste lors des rencontres face au Botswana, au Sénégal et contre l'Algérie en huitième de finale.
Mais Youn, qui était ce supporter et quelles étaient ses intentions ?
Ce supporter, qui s'est avéré être Michel Nkunka Mboladinga, artiste et animateur d'origine congolaise, a rapidement fait parler de lui, tant son geste interrogeait. Ce geste, c'est un hommage. Un hommage à un homme qui a profondément marqué l'histoire du Congo, Patrice Lumumba. Né dans le Congo belge, Patrice Lumumba devient en 1960 le premier premier ministre de la Nouvelle République démocratique du Congo. Il fut par ailleurs une figure majeure du combat anticolonial. Il est contraint de quitter son poste rapidement à la suite d'une crise politique. Il est assassiné en janvier 1961 dans des conditions qui demeurent toujours assez floues aujourd'hui. Après sa mort, il reste une icône de la décolonisation et cela bien au-delà des frontières congolaises. Leader du panafricanisme, il a en effet toujours prôné l'image d'un continent africain uni, souverain et émancipé. En 2022, une statue lui est même consacrée à Kinshasa, la capitale de la RDC.
Pour revenir à la Coupe d'Afrique des Nations, Youn, comment le geste de Michel Nkuka Mbola-Dinga a-t-il été perçu par les autres spectateurs et par la presse internationale ?
Eh bien, son geste a bien évidemment marqué les supporters présents au stade ou bien devant leurs écrans. La presse africaine a même souligné, je cite, « une véritable performance artistique et patriotique ». Après l'élimination des Léopards contre l'Algérie, Michel Nkunka Mbola-Dinga a laissé échapper de petites larmes, prouvant que même une statue pouvait avoir des émotions. Dans une république démocratique du Congo secouée par des crises humanitaires et des tensions politiques, ce geste a trouvé un écho particulier. Il a permis de rappeler, à travers le football, l'histoire complexe et douloureuse du pays.
Merci Youn Rolin. Les Léopards ont certes été éliminés en 8e de finale par l'Algérie, mais ses supporters auront marqué la CAN d'une image forte, symbolique et désormais inoubliable. Il est 7h47, bientôt 48, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, on se devait d'en parler, vous ne l'avez pas manqué cette semaine, il a neigé. Un épisode de neige d'une ampleur inédite depuis plusieurs années. Bonjour Clara Bodard.
Bonjour Jules.
Forcément, les journaux se sont emparés du sujet.
Oui Jules, et quand la neige tombe en France, c'est toujours un peu le même scénario. Dans Le Parisien, le titre est presque devenu un refrain. La France n'est pas prête. Quelques centimètres suffisent à faire dérailler le quotidien de nombreux franciliens. 10 centimètres à Paris et le trafic est paralysé. En Vendée ou à La Rochelle, les chutes vont jusqu'à 20 cm. C'est du jamais vu depuis le début du siècle, selon un expert de Météo France. Alors le Parisien est allé voir ailleurs. Direction le Canada, là-bas, la neige recouvre le sol plus de 100 jours par an. Et pas de panique, on sait exactement quelle rue déneiger, dans quel ordre et à quel moment, rappelle le journal. En France, c'est plus compliqué, pas de ligne budgétaire spécifique pour la neige, ça revient donc aux collectivités locales. Et par chance, certains ont anticipé, comme Plormène dans le Morbihan. Ouest France nous embarque à bord d'une saleuse complètement rock'n'roll, dans la cabine Gwenaël Lecointe et Bruce Springsteen à fond. Mais ce matin-là, mauvaise surprise, pas assez de sel dans la machine. Et oui, après 5 jours d'utilisation continue, les stocks sont presque vides. Jean-François Ladiré, responsable de la voirie, l'explique à Ouest France. On avait 25 à 30 tonnes depuis plusieurs années. On a commencé à piocher dedans dès samedi, mais avec 5 jours complets, on arrive au bout. Et au bout, lui, il l'est, enfin ils au pluriel. Dans Libération, direction la place de la République à Paris. Et là se joue le bal habituel des livreurs. Neige, verglas, pas de répit pour Aboubacar Kanété, livreur pour Uber Eats et Deliveroo. Il raconte à Libération « Je suis livreur depuis 2020 et je n'ai jamais vu ça ». Alors pour éviter de tomber, il freine le moins possible, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir un accident. Et pourtant, il continue, pas le choix, j'ai trop de charges, 2 enfants, 1 loyer. Alors ralentir la cadence rime aussi avec perte d'argent. Les risques, eux, ne sont pas payés, confie Ibrahim au journal. Donc, s'ils roulent moins vite, ils perdent de l'argent. Mais s'ils roulent trop vite, ils risquent de tomber. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. La neige, oui, c'est beau, ça fait des souvenirs. Mais pour certains, c'est aussi une menace. Reporter a choisi de raconter la vie des personnes à la rue à Paris. Sédou est l'un d'entre eux. À 17 ans, il est arrivé au Mali il y a 1 an et chaque nuit, seul dans sa tente, il tremble et ne dort pas. Beaucoup sont dans sa situation quand juste en face se trouve le tournage d'un film avec une cantine chauffée et des rires. Le côté glamour de Paris est juste à côté des gens qui crèvent la dalle, lâche un assistant gêné à reporter.
La neige, encore elle, a tout de même fait des heureux. À Tours, on a pu profiter de quelques centimètres cette semaine. Mathis Maudet et Clara Baudard, cette fine couche a suffi pour rappeler des souvenirs aux Tourangeaux que vous avez rencontrés.
Rue Nationale, à Tours, attention à ne pas glisser. Joël regarde bien devant lui, la neige, il apprécie.
Moi j'aime bien la neige d'abord pour le paysage, j'habite à la campagne et j'ai pris un tas de photos tout à l'heure, c'est magnifique, avec le soleil là c'est magnifique, donc j'aime la neige pour ça. Après j'ai plus l'âge de faire de la luge, ni des batailles de neige, puis je serai tout seul à m'envoyer des boules, donc ça irait pas.
De son côté, Jeanne s'émerveille, elle retombe en enfance.
Ma mère me faisait des pranks et tout, 1er avril, elle me disait « Ah, il neige et tout !» T'es trop contente, et on sort, bien sûr que non, il neige pas en 1er avril.
Mais, mais à peine sortie, sa sœur Olive voit déjà les inconvénients de la neige.
Bah en fait, je me suis dit, je sais pas, j'avais un peu froid, ah oh, vas-y, j'ai envie de les sortir. Au bout de 5 minutes, décision regrettée.
Elle cherche une rue piétonne moins glissante pour atteindre leur destination.
Bah elle est galère, ouais. Si, et moi,
bon,
ça
je vais changer de route parce que là, ça glisse trop. On veut aller autre part pour manger, et du coup, on ne sait pas par où passer.
Certains ont chuté et se sont même blessés, peu habitués à ces conditions à Tours.
Il est 7h52. Il est donc bientôt l'heure de se dire au revoir, c'est déjà la fin de cette matinale. Un grand merci à vous de l'avoir écouté, merci à tous les participants, Mathias Dupas, Gabriel Ziard, Mathis Maudet, Clara Danery, Rachel Giraudeau, Antoine Camara et Youn Rollin. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous, bonne journée à toutes et à tous.